CQ, épisode spécial Nordsec. Je suis accompagné de Charles. Est-ce que tu peux te présenter?
Ben déjà, bon matin. Charles Hamilton, je travaille chez Cypher. Spécialisé généralement dans le Red Team, donc je fais tout ce qui est offensive là-bas. On a une super équipe, on a du plaisir, puis on aime ça pirater des choses à tous les jours.
C'est un drôle de façon de présenter comment moi je pirate des choses dans ma vie. T'es venu présenter au Nordsec un exploit, dans le fond, que tu as trouvé une façon de contourner des éléments spécifiques. Pour moi, c'est un bon prétexte de parler du red teaming au sens large, ouais. Parce que en préparation, on a abordé sur le fait que c'est un drôle de marché qui est en tombe dans l'écosystème dans lequel on est et de toute façon, ça vient bousculer les méthodes défensives énormément et dans lesquelles les vrais attaquants ne font même pas actuellement.
Exact. C'est ça. Dans le fond, le problème, c'est que les red teamers, souvent, vont aller cibler des compagnies qui sont un peu plus établies d'un point de vue de sécurité. Généralement, quand tu es rendu à faire ce genre d'exercice, d'ailleurs, juste peut-être contextualiser un peu les red teams, souvent, ça va être des exercices où on va aller essayer de déterminer s'il y a une bonne capacité de détection de ce qui est fait. Donc, c'est pas juste une question de vulnérabilité, c'est une question aussi de découvrir est-ce que vous êtes capable de se rendre compte que quelqu'un dans ton environnement, mais pour être capable de faire ça, déjà, tu as besoin d'avoir des outils en place. Donc, c'est sûr qu'un client qui n'a aucune détection, il a moins d'intérêt. Donc, nos clients sont généralement plus matures d'un point de vue sécurité. Le problème, c'est qu'on va avoir des solutions d'EDR au niveau du réseau et tout ça. Donc, nous, on se doit d'être capable de contourner ça pour être capable d'arriver à nos fins, c'est-à-dire faire notre exercice, quand même trouver des chemins vers des vulnérabilités, des trucs comme ça. Donc, on a dû se sophistiquer malgré nous. Puis le problème avec ça, c'est qu'après ça, ben ça devient public par mille raisons. Ça peut être des solutions de sécurité qui finissent par analyser ce qu'on a mis dans l'environnement. Ça peut être quelqu'un qui fait une recherche publique parce que la réalité aussi, c'est ça reste un travail. On doit les entreprises doivent un peu publier ce qu'ils font pour se différencier et tout ça. Puis on remarque beaucoup que les attaquants ont commencé à prendre des red teamers et non l'inverse. Si je regarde au début de ma carrière, il y a 10-12 ans, les techniques qu'on trouvait super intéressantes, c'était des attaquants, des samples qui avaient été trouvés dans l'Internet, qu'on disait, regardez ce groupe malicieux-là, cette nouvelle technique-là, c'est vraiment intéressant, on implémentait ça, mais ça a vraiment shifté complètement parce qu'on n'a pas été opportunistique. Les attaquants, eux, trouvent une vulnérabilité, scannent l'Internet au complet, parfait, on a 100 clients, là, je me sens appeler ça des clients, là, mais on a 100 nouveaux clients, ils vont les compromettre, on va essayer d'aller faire de l'extorsion du mieux qu'on peut, mais après ça, qu'ils soient sécures ou pas sécures, ça ne les intéresse pas nécessairement. Puis j'ai tendance à penser qu'ils vont aller mettre leur énergie sur ce qui est plus facile parce que ça reste une business où le profit est quand même le but ultime. Là, donc, pourquoi se compliquer la vie avec un client qui est plus mature en sécurité quand tu as des centaines de clients qui n'ont pas nécessairement le même budget de cyber pour être plus sécure? Donc, c'est vraiment intéressant le chiffre que ça a apporté dans l'industrie.
Oui, c'est intéressant puisque je l'ai vu aussi un peu se dérouler comme toi. Moi, je ne suis pas spécialiste dans ces domaines-là. J'ai vu de l'extérieur, je suis plus au côté des Blue Team. Fait que je le vois plus de comment nous, on reçoit les avancées, autant les attaques du terrain, l'attaque de la nature, in the wild, là, dans la nature, ouais. Comment elle se déroule et comment on a à subir ou vivre des exercices de red team. Et on est littéralement dans deux univers complètement différents. Exact. Et quand on est dans une organisation un peu plus mature, c'est même à la limite, on voit les attaquants naturels et c'est quasiment risible à quel point ils sont awkward, un peu maladroits, puis tu les vois tâtonner beaucoup dans les réseaux. Et c'est une façon de le voir très rapidement quand on a un red team qui rentre, on voit tout de suite
c'est
beaucoup plus violent aussi en termes de
ouais, ben ça revient à ce qu'on dit, on n'a pas le choix d'être plus mature en termes de pratique versus les attaquants qui sont très opportunistiques. Donc eux, ils rentrent. Tu as un exemple parfait, ça doit faire 10 ans que je dis aux gens quand je donne des formations de red team, des trucs comme ça, de ne pas rouler de PowerShell parce que la plupart des clients moindrement matures vont avoir une règle de détection pour PowerShell. C'est trivial. Et la raison est fort simple. Si on regarde il y a 10 ans, beaucoup des outils qui ont été développés pour le red team étaient basés sur PowerShell. Un exemple typique, un des frameworks C2 qui est très utilisé, c'est Cobalt Strike. Quand ça a été écrit, cet outil-là, c'était au au sommet de PowerShell. Donc, tout le backbone de l'outil était en PowerShell. Dans le temps, ça faisait du sens parce que c'était nouveau, c'était la façon de faire, mais c'est des outils qui peuvent mal vieillir. Au moins, ils se sont adaptés avec le temps puis ont enlevé cette partie de PowerShell-là. Mais on regarde les rapports publics qu'on voit sur les attaquants modernes, la dernière attaque cool, puis encore là, tu te rends compte que c'est beaucoup de PowerShell. Puis c'est drôle parce que sur Twitter, il y a quelqu'un qui m'avait tagué sur un truc. Je ne me rappelle plus c'était quel vendor, mais de toute façon, ce n'est pas important. Il y avait une nouvelle backdoor super moderne d'un nouvel attaquant qui avait appelé ça Web Dev Backdoor, quelque chose de genre, je ne me rappelle pas en vrai. Puis en fait, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait repris du code que j'ai publié il y a genre 12 ans. Ils ont repris mon C2 littéralement. Et ils ont modifié un peu, puis c'est devenu leur nouveau C2, mais ça a été publié il y a peut-être un an et demi. Là. Donc, d'un point de vue attaquant, on n'avait pas vu ce code-là qui est littéralement archivé sur mon GitHub depuis genre 10 ans. Fait qu'eux, ils l'ont repris, ils ont dit, oh, on va retourner ça, il y a des petites twists qu'ils trouvent intéressantes là-dedans, puis là, c'est devenu, d'un point de vue, un peu comme tu dis, Blue Team, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu dans le Blue Team parce que l'approche que j'ai utilisée pour se développer ce C2-là est un petit peu différent, mais là, les attaquants se sont appropriés. Donc, c'est toujours intéressant de voir ça un peu. Puis c'est ça que tu disais un peu plus tôt. Les attaquants, ils trouvent des trucs, essayent des trucs. Ils sont comme tout le monde. Là. Ils ont accès à l'Internet. Ils cherchent des outils. Puis ils essaient de trouver des outils qui répondent à leurs besoins. Puis les besoins des attaquants versus le Red Teamer sont extrêmement différents.
Très, très différents. Puis pour avoir géré le nombre d'incidents dans les 10 dernières années, je retrouve encore des vieilles qui maintenant, pour moi, sont rendues des vieilles guenilles comme Mimikatz, par exemple, ouais. qui est vieux comme la Terre en termes d'attaque. Et ça roule encore dans la nature, ce genre de choses-là. Quand dans les faits, c'est très drôle de revoir ça. Puis c'est toujours l'effet de surprise. Ah ben, ça existe encore. C'est encore vivant, ce genre de choses-là, quand des éléments comme tu développes mais professionnellement.
C'est efficace comme outil. Puis c'est la facilité. Puis on regarde, mettons, combien de fois qu'on entend des histoires d'endroits compromis ou de genre VPN qui n'avaient pas de second facteur d'authentification, ils ont trouvé des accès en ligne, ils ont essayé, ça fonctionnait et comme par magie, cet utilisateur-là est privilégié sur un système X, donc Mimikatz fonctionne direct parce que pour que Mimikatz te donne toute cette information en mémoire, tu as besoin d'avoir des privilèges administratifs, mais en même temps, tu es rentré avec un VPN, tu as des privilèges élevés parce que ça t'est conféré comme ça, tu vas chercher tes trucs en mémoire, pas d'EDR, il n'y a aucune raison qu'il ne le fasse pas. Pourquoi arriver avec des techniques super sophistiquées d'évasion X quand tu regardes les process, il n'y a rien, merci, au pire tu as Defender, tu rajoutes une exclusion pour tout le C drive parce que tu as le droit, puis bah, tu move on with your life, ça rien à ce que tu dis, ça va fonctionner parce que c'est des outils super puissants, puis c'est ça la beauté aussi, puis je pense qu'il y a un petit problème dans l'industrie, c'est que les gens n'apprécie pas le tooling Mimikatz d'un point de vue recherche. Sophistication, c'est un super beau tools. Benjamin, qui est la personne qui a fait le tools, a dû passer des centaines d'heures, peut-être même des milliers d'heures, à comprendre les structures de Windows. La complexité de cet outil-là est merveilleuse. Puis justement, au NordSec, cette année, on avait H.D. Moore, qui est un des fondateurs ou le fondateur unique de Metasploit. Ce framework-là a permis de rendre l'exploitation de extrêmement complexe, super accessible. Puis je pense que combien de fois on a entendu ça quand on était jeune, j'ai compromis ce client-là, c'était facile, ils sont mauvais parce qu'ils ont roulé un exploit. Puis ma question, c'est toujours, peux-tu m'expliquer comment cet exploit-là fonctionne? Je pense à un vieux truc, là, ça va prendre te rappeler, là, MS08067. Là. Je pense que c'était un malware comme Flickr, je pense, ou quelque chose comme ça, qui avait utilisé ça en 0D.
Oui, je pense que oui.
Puis cet exploit-là s'est fait ramasser dans Metasploit parce que c'était direct, tu avais accès à une machine en remote sans authentification sur Windows avec des privilèges élevés. Fait que c'était des million dollar exploits un peu. Puis tout le monde qui a fait un petit cyber a roulé cet exploit-là puis a compromis des systèmes avec ça. Mais écrire cet exploit-là, c'est autre chose. Juste si on regarde historiquement en 2008, ce qu'il y avait comme outil, c'était beaucoup plus limité. Cet exploit-là utilise des services RPC de Windows. Déjà, c'était pas super documenté comme aujourd'hui. L'exploit en soi est quand même assez complexe. C'est un buffer overflow à ce niveau-là. Les outils de débugger, tout ça, c'était pas là. C'est un des premiers exploits publics qui avait un rope chain. Là. En gros, rope chain, c'est pour aller modifier les permissions de mémoire parce que tu n'as pas le droit d'écrire. Puis, bref, c'est un concept qui est maintenant très bien connu, mais c'est un des premiers exploits. Puis Metasploit était à tu mets une IP, puis tu fais exploit, puis tu obtenais un accès sur le système. Puis je pense que les gens ont un petit peu oublié d'apprécier les outils, puis sans rien ce qu'on disait, mais Mimikatz, c'est un outil fantastique, l'aspect technique, puis je pense que les gens devraient prendre plus de temps à regarder comment ces outils-là fonctionnent pour être déjà eux des meilleurs Red Teamers, avoir une meilleure compréhension, puis ça fonctionne des deux côtés, autant sur le Blue Team. Là, je fais souvent des exercices qu'on appelle Detection Capability Assessment. On va s'asseoir, on va rouler des trucs. Le but, c'est de voir est-ce que le client va être capable de le détecter. C'est pas, y a pas une histoire, c'est vraiment on s'assoit, c'est collaboratif. C'est super intéressant parce que souvent, les Blue Teamers n'ont pas la chance de voir des Red Teamers en action puis d'avoir accès à eux, puis on parle. Puis souvent, les clients, la gestion, on dit, ah, c'est super cool, ça a vraiment allumé nos équipes. Ils ont adoré l'exercice, ça a motivé les troupes. Là, ils se sont mis à faire des règles partout parce que, par exemple, Mimikatz, okay, s'il y a l'exécutable, c'est facile à détecter, mais mettons qu'il y a un petit peu d'obfuscation. Comment Mimikatz fonctionne reste la même, dans ce que tu as certaines DLL Windows qui vont être chargées dans un ordre bien spécifique, qui vont accéder à des trucs. Donc, encore là, c'est de comprendre ces indicateurs-là que le Blue Team va peut-être pas faire cet exercice-là, mais les Red Teamers, je pense qu'on fait beaucoup plus cet exercice-là de comprendre parce que notre but, c'est de trouver un chemin vers quelque chose.
Oui, bien, d'élaborer des nouveaux chemins. Puis la compréhension, puis tu fais bien de le mentionner, Mimikatz, c'est un outil très, très, très complexe, qui malheureusement a simplifié. Puis l'autre aussi que tu mentionnais, sont pas faciles de mettre en application. Et il y a des gens, puis c'est aussi de savoir à quel point là, ça, parce que c'est quand même des chercheurs qu'ils ont donné disponibles, à quel point ces chercheurs-là ont affaire. Tes outils se sont aussi retrouvés dans des trousses maintenant hostiles. Comment on peut balancer l'acte entre le fait de cette grande recherche-là, puis qui est essentielle d'un côté, puis ces outils-là ont démontré, ont fait corriger un certain nombre de problèmes et ont aussi est servi à établir des règles, comme dans le cas de Mimikatz. Ben ça, on est capable de comprendre le fonctionnement, on est capable de le détecter facilement. Puis ça, une fois, tu as la télémétrie, puis tu sais, maintenant, la télémétrie est accessible à tout le monde, là, dans Windows, Linux, peu importe. Ouais. Fait que, une fois que tu comprends ta télémétrie, tu es capable de faire quelque chose. Mais dans quelle mesure, comment on balance l'acte entre le défensif et l'offensif?
Mais déjà, je pense que la question est un petit peu plus compliquée de est-ce qu'on devrait publier ça? Il y a eu plein de débats à travers les années sur ce que les researchers devraient publier ça. La réponse, elle est probablement beaucoup plus complexe que ça, mais la simplifier, je pense que si c'est pas cette personne-là, ça aurait été quelqu'un d'autre parce que ce concept-là, parce que Mimikatz, dans les faits, c'est pas une vulnérabilité en soi, c'est juste quelqu'un qui a une bonne compréhension de Windows, qui a passé des heures à comprendre ça, puis qui a collé les morceaux ensemble parce que tout ce qui est chiffré de façon symétrique, la clé est quelque part d'autre. Puis en fait, c'est un peu ça, Mimikatz. L'information est chiffrée dans le process LSAS. Par contre, la clé est aussi chiffrée dans ce coin-là. Donc, c'est d'aller extraire la clé pour aller chercher l'information en clair. Ce concept-là est là, c'est documenté par Microsoft. Puis c'est drôle parce que dans mon training de Red Team, je parle beaucoup de ça. Je donne l'exemple de plein d'unités modernes, genre Petipotam. Peut-être ça va parler à certaines personnes, mais c'est un autre vulnérabilité qui utilise les protocoles RPC de Microsoft. Si tu lis la documentation qui est publique, qui est faite par Microsoft, tout est là. Tu as les structures de données qui sont définies. Ils ont un format qui s'appelle IDL. C'est vraiment la forme des structures. Tout est là. Tu as juste à lire la documentation. Tu peux le réimplémenter. Donc, la réponse est là. C'est juste de quelqu'un prendre le temps. Ça peut être quelqu'un qui est du bon côté, dans le sens quelqu'un qui travaille professionnellement cyber, ou un attaquant qui décide de trouver un nouveau chemin. Dans tous les cas, on va finir par publier ça. Je pense que c'est important l'aspect collaboratif pour revenir à ce que tu disais sur le blue et le red. Mais cette collaboration-là n'est pas toujours facile parce que je pense qu'il y a un très gros disconnect entre les deux. Souvent, les Red Teamers ne sont pas nécessairement intéressés par le Blue Team, mais je pense que pour être un bon Red Teamer, tu dois comprendre aussi les traces que tu laisses. Puis encore là, c'est quelque chose que je donne dans mon training. On va regarder des outils. On va parler de ce qu'ils laissent comme trace parce que les gens roulent des outils un peu sans se poser de questions. Ils se font pas détecter, c'est pas toujours parce qu'ils sont bons. En fait, c'est que le client a pas la détection en place. Puis c'est là que c'est intéressant parce qu'en tant que Red Teamer, quand tu comprends ça, tu peux dire, ben, j'ai roulé ça, vous l'avez pas détecté, mais cet outil-là laisse ça. Vous devriez être capable d'avoir de la visibilité sur ça, par exemple. Puis c'est là que je pense que tout le monde grandit aussi en tant que professionnel puis en tant de capacité de détection, mais ça demande un effort des deux côtés aussi. Puis cet aspect collaboratif-là. Puis la réalité aussi, surtout au Québec, les budgets en cyber sont pas les mêmes que dans le reste du monde. J'ai eu la chance de travailler pour des compagnies américaines, des compagnies locales, des grandes compagnies, des petites compagnies. Puis vraiment, quand on parle de mandats comme ça, collaboratifs, c'est évidemment, c'est plus coûteux parce qu'il y a plus de temps, tout ça. Puis les compagnies au Québec sont beaucoup plus frileuses à ça, mais je pense que ils bénéficieraient énormément à faire ce genre d'exercice-là. Aussi, il y a beaucoup de managed services qui sont en place. Donc, toute ton intelligence d'entreprise, tu la donnes à une compagnie qui ça devient super opaque pour toi. Je crois vraiment que d'avoir des ressources à l'interne qui ont cette information-là que tu peux aussi garder, documenter à l'interne, ça a énormément de valeur parce que tu changes de produit ou de vendor, toute l'intelligence de détection qu'il y avait part avec ce vendor-là. Puis chaque vendor ont leur force et leur faiblesse. Mais imagine si tu étais capable de tout fusionner ça ensemble dans un endroit qui est ton entreprise, je pense que la détection serait vraiment mieux qu'elle était, mais la réalité, c'est que c'est pas ça qui arrive.
Oui, notamment, puis je pense que la détection est un concept, à ce que je vois, encore très mal comprise par bien des gens, puis même dans le domaine, au sens où c'était d'un contexte où on avait des signatures avec des antivirus il y a très, très longtemps, où maintenant on a basculé dans un univers de télémétrie, essentiellement.
Exact.
Si on veut faire la détection, c'est de la télémétrie, donc c'est tous les signaux de ton système, comment tout fonctionne, puis là, tu es capable de voir des choses et de comprendre des choses. Et donc, le shift s'est fait, disons, il y a quoi, 10, 15 ans, mais les gens n'ont pas suivi.
Non, puis
ce qu'on appelle
aussi
un EDR maintenant, exact, c'est un peu cette représentation-là de ce shift-là.
Exact.
Les gens achètent le produit sans comprendre le fonctionnement.
Puis comme tu dis, ils ont l'agrégation des données, mais après ça, il y a ce qu'on généralement va appeler du threat hunting. Fait que là, c'est un volume de données qui est quand même assez volumineux, mais c'est d'identifier les actions malicieuses. Puis un truc que la plupart de ces outils-là ont énormément de misère à faire, c'est de contextualiser. Parce que combien de fois j'ai entendu des incidents, qu'il y a eu des alertes, il y a eu des événements, mais la sévérité était considérée très faible, mais on n'a pas pris action parce que c'est faible, mais c'est de contextualiser. Un exemple, par exemple, tu aurais quelqu'un dans ton entreprise qui est considéré comme étant une ressource qui est non technique, puis que cette personne-là, du jour au lendemain, se met à rouler du PowerShell, faire des commandes LDAP, faire de l'énumération du domaine. C'est pas nécessairement critique court terme, mais si tu contextualises que ce poste-là est une ressource non technique qui n'a aucune raison d'utiliser PowerShell et encore moins de faire des requêtes LDAP.
Ça sent le blowdown, là, by the way. Peut-être un blowdown qui traîne dans
mais
mon
c'est exactement
dans
ça. Puis c'est ce réflexe-là de Blue Teamer qui devrait avoir, de faire ça ressemble à une signature de quelque chose que je connais, qui est potentiellement malicieux. Il n'y a aucun contexte ou quelqu'un de non technique dans ton entreprise va rouler blowdown. C'est un sysadmin qui a un petit background en cyber, qui veut faire un petit audit par lui-même. Parfait. Lui, il roule blowdown, ça fait du sens, mais c'est de contextualiser. Puis je pense que les outils qu'on a n'ont pas cette distinction-là. Tout le monde est un utilisateur. Il y a des gens avec des droits administratifs locaux, il y en a non. Puis je pense que ça devient compliqué. Puis le problème, c'est que l'aspect machine pas la capacité de segmenter ces gens-là. Ça pourrait être fait là, si on regarde Active Directory avec des organization units, avec les non-tech users, puis d'adapter ça. Mais les produits n'ont pas encore intégré ces features-là qui permettent cette espèce de filtrage-là, puis de dire que tout ce qui est lourd sur un poste non technique, ça devient un high parce que ça ne devrait pas arriver. Ça fait que déjà, ça t'aide à contextualiser parce que j'ai vu plein d'histoires, puis même moi, dans mon contexte de Red Team, j'ai fait plein d'attaques qui vont laisser des petites traces parce que la réalité, comme tu dis, la télémétrie est partout. Tu peux être la personne la plus sophistiquée au monde. Il y a une chose qui est sûre, si tu as une machine, tu as au minimum fait du trafic réseau puis tu as quelque chose qui roule quelque part, que ce soit en mémoire, sur disque, peu importe. Il y a des artefacts qui sont laissés que la télémétrie capture. Après ça, c'est les solutions de déterminer s'ils considèrent que c'est assez à risque ou non. Fait que tu vas avoir plein d'events que personne ne va regarder ou des alertes très bas niveau que pour le alert fatigue, souvent, ils vont te mettre ça comme étant tout ce qui est lourd, c'est pas dangereux, mais contextualiser ça, je pense que c'est vraiment la clé. Puis ça revient à ce qu'on disait, éduquer tes ressources Blue Team aussi, ça va t'aider parce qu'ils vont avoir des réflexes. Je t'ai donné deux contextes de PowerShell, LDAP, puis tout de suite, tu m'as sorti, ça peut être du blood on. Fait que c'est ce réflexe-là que tu veux inculquer à tes ressources aussi, mais ça prend de la formation, ça prend des trainings, ça prend du temps, ça prend de l'investissement aussi de la compagnie pour être capable d'arriver à avoir ce genre de ressources-là et ce genre de réflexe-là.
Oui, tout à fait. Puis moi, c'est devenu des réflexes ou des intuitions, là, comment on veut le regarder, parce que j'ai traîné là-dedans, je n'en ai vu beaucoup. Même à une époque, c'était l'époque de Emotet, par exemple. Tu voyais tout de suite, tu le voyais passer. Oh, c'était clair, tu le voyais passer. Puis tu avais d'autres gestes, puis tu étais capable de filtrer naturellement, puis éviter le alert fatigue, parce que j'étais capable de traiter, puis c'est indépendant du fait d'avoir des lots, c'est indépendant de ça, parce que c'est des mauvais filtres qui, malheureusement, on a développé avec le temps, puis la démonstration, et puis sûrement dans du red teaming, c'est encore pire. T'additionnes les lots, puis tu vas avoir un high, mais normalement, t'es pas capable réellement, dans le mécaniquement, de faire ça. C'est juste le rendement humain qui est capable de dire, OK, si je cumule ces lots-là, c'est ça, je vais être capable de le passer à travers. Et c'est généralement ce qui arrive dans des attaques un peu plus sophistiquées. Là.
Exact. Puis c'est toujours le concept, on veut tout mettre dans des compartiments, on veut tout le temps que ça soit très, très clair, très droit. Puis le problème, justement, il y a plein de standards pour les vulnérabilités, du genre CVSS, par exemple. Quand je fais des red teams, dans mes findings, j'ai jamais de CVSS parce que, comme tu viens de dire, le risque et l'impact, je le contextualise dans le contexte de l'exercice. Puis comme on disait, les red teams, il y a l'aspect détection, mais souvent, on va déterminer des objectifs avec le client. Donc, dis-moi ce que toi, tu considères comme étant critique. On va essayer de se rendre là. Fait que si je trouve une vulnérabilité qui a un impact low, normalement, mais dans la chaîne pour arriver là, si j'ai réussi à comprendre toutes tes données clients, ton lot, en fait, il devient quelque chose de quand même critique. Donc, c'est pour ça que CVSS sur cette vulnérabilité-là ne va pas nécessairement s'appliquer parce que tu n'as pas de métrique pour contextualiser dans ce framework-là. Tu en as, en fait, mais c'est très rigide dans le sens que est-ce que c'est network, est-ce que c'est local, puis là, tu as un score avec ça, mais tu n'as pas l'aspect, mais ça, sur un système X, c'est critique. Puis c'est un peu ça. Si on regarde les tests d'intrusion standard, ça va être, on scanne ton environnement, on trouve le plus de bugs, on exploite le plus de choses possibles, mais le système qu'on a compromis, est-ce qu'il est intéressant, oui ou non? On répond pas à cette question-là. Les red teams, on va aller, en fait, cibler ce qui est important pour toi. On va pas couvrir tout, mais on va couvrir les chemins vers ce que tu considères de valeur, parce que dans les faits, compromettre ton imprimante avec un mot de passe par défaut qui sert à imprimer rien, c'est pas vraiment important. Par contre, tu peux avoir une imprimante qui, elle, imprime des passeports parce que, mettons, passeport Canada ou je sais pas, puis que finalement, ils gardent tous les documents là-dedans. Fait que là, compromettre une imprimante où tu as tous les passeports de tous les Canadiens, là, l'histoire devient intéressante. Même contexte, même vulnérabilité, outcome complètement différent, juste à cause de ce que cet outil a fait. Puis c'est ça que le Red Team permet, je pense, d'avoir plus d'impact, surtout avec les exécutifs, parce qu'ils comprennent que ça, c'est un risque, parce qu'ils reconnaissent les mots-clés des applications qu'ils considèrent comme étant critiques, importants et qui ont un impact opérationnel si ça tombe. Puis je pense que ça, c'est important de comprendre ça aussi.
Oui, j'aime bien le fait que tu as abordé CVSS parce que j'ai un beef contre cette notion-là. Okay. Notamment, l'exemple que j'ai, c'est Log4j qui a été monstrueux à bien des égards. Exact. Mais quand on le comprend, puis on parle, puis on reparler du fait de comprendre, quand on comprend l'attaque, sans défense, c'était très simple. Mm-hmm. Puis on aurait pu à l'époque, faire que les gens passent Noël en famille au lieu de patcher comme des caves amuseurs. Parce que s'il y avait eu cette compréhension-là de juste dire, OK, ben le chemin d'attaque, c'est ça, on bloque le chemin d'attaque, donc on est safe. Même si la vulnérabilité est existante, on est safe parce que le chemin d'attaque est verrouillé de plusieurs façons. Et cette compréhension-là, puis j'ai vu ça dans aucune organisation, ce genre de se poser cette question-là de comment l'attaque s'exécute et donc comment je m'y protège, on fait juste qu'on va patcher.
Exact.
C'est une drôle de réflexion. Puis c'est ça aussi, je trouve qu'on est brisé comme industrie sur ce genre de choses-là.
Définitivement. Puis un des problèmes aussi, c'est que je pense que ça devient un petit peu un concours là, maintenant de quelle personne, quel researcher, quelle compagnie va sortir la vulnérabilité vendredi 4h qui va briser la vie de plein de personnes en fin de semaine. Puis je pense qu'on a un problème aussi dans l'industrie que ce qu'on peut appeler les cyber-influenceurs, là, des gens très actifs par exemple sur les plateformes genre LinkedIn, ce genre de trucs-là, vont souvent avoir tendance à présenter des choses qui sont du réchauffé puis qui sont plus très à jour. Je vois souvent passer encore là, la chart de combien de temps ça prend, cracker un password. Cool, mais ça fait 20 ans qu'on la voit, puis la réalité, c'est que dans l'industrie, les gens techniques vont recommander le passwordless, ce genre de trucs-là. Fait que cette espèce de discours-là amène rien. C'est plus parlons du MFA, parlons de comment intégrer ça, parlons des technologies qui existent. Il y a plus. Mais le problème, c'est que c'est ces gens-là qui ont une plateforme, qui ont une voix, qui finissent par aller dans des conférences, répéter ce genre de trucs-là, vitam aeternam. Puis la réalité, c'est que les ressources techniques, puis je vais me mettre dans ce bassin-là, on a moins cette plateforme-là. C'est plus difficile d'avoir moins de conversation avec un exécutif parce qu'ils vont pas être intéressés par ce que j'ai à dire, parce que de leur point de vue, c'est trop technique, ils comprennent pas. Mais puis depuis des années, je me dis, il faudrait essayer de créer un événement mondial, Québec, peu importe, où on est capable de réellement avoir les ressources techniques puis les gens moins techniques de la haute cyber qui se parlent. Parce qu'en fait, je pense que les deux ont des choses à apprendre des autres. Autant le côté plus corporatif puis les réalités d'entreprise qui fait que c'est pas tout le temps facile de dire on va tout patcher parce que mille raisons d'entreprise puis aussi de comprendre qu'il y a pas juste les mots de passe qui sont problématiques mais qu'il y a beaucoup plus large que ça, de comprendre les, comme tu dis, log4j, oui, la vulnérabilité peut amener quelque chose d'extrêmement critique dans le sens que tu peux compromettre un système, sauf que si t'as pas des règles de firewall en place qui permettent que le système par exemple puisse pas parler en interne, même si c'est techniquement exploitable, ça marchera jamais. Puis c'est de leur faire comprendre ça, puis c'est de comprendre qu'il y a des outils, parce que les gens achètent des boîtes, ils pluguent ça, puis ils disent « Ah, ben là, je suis bon », mais encore là, ça revient à ce qu'on disait, il faut les configurer, ces boîtes-là, il faut les comprendre, puis tu sais, je vais sourire, puis mais la réalité, c'est que tu en as vu mille des clients comme ça, puis je pense vraiment qu'il y a un gros gap de conversation entre les gens techniques, ceux qui ont vraiment les mains dedans, ceux qui le voient justement. J'ai publié un white paper il y a peut-être un mois à peu près à travers Cypher. D'ailleurs, il est disponible en ligne si ça intéresse les gens. Mais j'ai parlé de ce que je vois encore en 2025 quand je fais des red teams, des trucs qui ne sont pas nécessairement récents, mais que je vois. Petit Potam est un parfait exemple de ça. Petit Potam, j'ai un blanc, là, mais j'ai envie de te dire, c'est 2022 ou 2023, le CVE. Donc, ça fait, mettons, 2 ou 3 ans que c'est sorti. Microsoft a émis une patch. Les gens l'ont patché, se sont dit, il n'y a plus de problème. Le problème, c'est que si tu lis la patch, ça ne corrige pas le problème. C'est une mitigation. Tout ce que ça fait, c'est forcer l'authentification, mais un utilisateur standard de ton environnement peut se connecter. Donc, moi, j'arrive dans mon Red Team. Comme par magie, j'utilise cette vulnérabilité-là qui a juste été mitigée parce que je suis dans un contexte authentifié de toute façon. Puis les clients sont un peu confus. Ben ouais, mais j'avais mis la patch, puis ils me sortent le KB. Je fais, ouais, mais avez-vous lu la patch? Puis ça revient à ce que je disais, d'essayer d'éduquer les gens, de comprendre que la cyber, c'est extrêmement complexe. Il y a plein d'environnements. Il y a l'aspect technique, il y a aussi l'aspect de gouvernance. Mais ces gens-là se parlent pas. Puis il y a tout un espèce de compétition un peu, je trouve, entre ces secteurs-là. Puis je pense vraiment que s'unir pour être plus fort est quelque chose qu'il faudrait amener, puis ça revient à ce que tu dis un peu là.
Oui, tout à fait. Puis c'est le cœur de mon travail essentiellement, de réussir à communiquer avec les exécutifs.
D'être le pont entre les deux. Là.
De transférer, ouais, de faire le pont entre les deux. Puis j'ai des cas, puis même encore récemment, malheureusement, où j'ai des gens techniques avec très dogmatique là, sur la pureté du chose. Puis ça arrive, oui, mais. Non, parce que ce que tu me dis, c'est pur théorique, puis je peux te démontrer que ta théorie s'écrase parce qu'il y a ça qui est en place, ou j'ai pas besoin d'avoir les dernières patches parce que les systèmes sont configurés de telle façon à ce qu'on a le temps de patcher à vitesse humaine, pas de pas gâcher la fin de semaine des gens. On est capable de driver comme ça. Puis là, c'est comme une espèce de débat éternel, cette espèce de conflit là, qui est, pour moi, stérile parce qu'on. On rate l'objectif d'améliorer la sécurité des compagnies. On est en train de se battre entre nous pour arriver à qui a la meilleure solution ou la meilleure approche.
Ouais, puis aussi, c'est de comprendre la validité d'un bug. C'est super intéressant. J'ai pas le nom en tête, là, mais il y a un système de scoring qui est capable d'évaluer les risques qu'un CVE soit exploité. Puis c'est vraiment intéressant parce que tu vas avoir des CVSS avec des 9.8, genre le monde est en feu, mais tu te rends compte que finalement, ben il n'y a pas d'exploit parce que ça peut amener à quelque chose de critique, mais il y a plein de raisons technologiques ou techniques qui font que l'exploit est très difficile, instable. Bref, l'exploit n'arrivera pas. Puis justement, j'en parle dans mon Red Team Training. Si vous trouvez un CVE, vous voyez quelque chose sur un système vulnérable, allez demander à ce système-là qui va vous dire c'est quoi déjà les chances qu'un exploit existe. Ça va vous aider parce que si c'est 0.1%, j'irai pas trop perdre mon temps là. Je dis pas que ça va jamais arriver. Il y a peut-être quelqu'un d'extrêmement motivé qui va arriver, mais c'est aussi de quantifier ça. Puis ça revient toujours à ce qu'on dit, c'est de contextualiser ça. Parfait, il y a un gros truc qui vient de sortir vendredi 4h. C'est quoi les chances réelles que demain matin, ça soit exploité? Déjà, si la réponse c'est déjà, ça a été vu dans l'Internet que c'est déjà exploité, il y a des acteurs malicieux, peut-être je prioriserais. Par contre, si c'est quelque chose de théorique pour le moment ou qu'on a des mesures en place en interne, ça revient à ce que tu dis, c'est aussi de connaître son environnement, de dire, ben nous, ces serveurs-là qui pourraient être potentiellement vulnérables sont derrière un pare-feu ou un truc genre dans une DMZ, ou je sais pas, puis il y a un minimum de contrôle en place. Ben, rendu là, t'es capable d'accepter le risque pour la fin de semaine puis de redonner un petit peu de temps à tes employés pour vivre une fin de semaine plus plaisante. Mais il y a beaucoup ce sentiment-là. Tout doit être urgent, tout doit être critique. Mais c'est très moderne là, de notre société. Là. Tout doit être rapide, tout est critique, tout est...
Le feu tout le temps pris partout pour exact. L'éteindre au plus vite. Puis là, j'ai flippé un peu sur ton travail de Red Team. Puis là, on parle notamment de CVE, mais qui sont difficiles d'exploiter ou instables. Dans un contexte de Red Team, parce que là, on est dans un autre paradigme, là. C'est pas un attaquant classique qui va monter une attaque faire ça. Comment ces attaques, comment ces CVE-là se mettent en œuvre? Comment vous devez en découvrir aussi, notamment des CVE à travers différents travaux? Comment ça se matérialise dans ton quotidien?
Bien, la réalité, c'est que souvent les Red Team, à cause de l'aspect en début d'exercice, on ne veut pas être détecté, on va aller faire beaucoup d'énumération de ce qui est là, puis on se rend compte qu'il y a énormément de mauvaises configurations qui sont faites, qui amènent plein de vulnérabilités. Puis ce qui est le fun, c'est que souvent le client ne réalise même pas que cela parce qu'ils ont mis une solution à un moment X, qui a changé des permissions dans leur Active Directory ou qui a ouvert un truc. Puis je ne sais pas combien de fois j'ai dit à un client, ben, on a exploité ça, il dit pourquoi c'est là, puis il n'y a personne qui comprend. Puis c'est ça qui est intéressant, puis je pense que c'est là qu'on a une valeur aussi. On est là pour trouver ces trucs-là parce que les attaquants, c'est ça leur travail aussi, les Red Teamers, on est là pour trouver les vulnérabilités puis vous les reporter avant que quelqu'un d'autre réussisse à rentrer dans votre environnement. Donc, la réalité, c'est que souvent, on n'a pas besoin de se rendre à de l'exploitation. Il y a des clients qui sont intéressés à ça. Ça va être des clients très récurrents que ça fait 5, 6, 7, 8 ans qui font ça puis qui vont te mettre des objectifs plus spécifiques parce qu'ils veulent vraiment aller voir quelque chose. Puis c'est là que littéralement, tu vas te mettre à aller télécharger un logiciel qu'ils ont déployé dans leur environnement, commencer à faire du reverse engineering, des trucs comme ça. Puis, c'est dans Red Team, il y a un mot-clé qui est team, puis c'est de travailler en équipe aussi. Là, souvent, tu entends l'histoire de ah ouais, faites un Red Team, puis c'est une personne dans une business qui le fait tout seul. C'est quand même très fréquent, mais d'avoir des gens qui sont capables de faire du web, du reverse, des gars de réseau, tu sais, j'en parle souvent. Tu veux te monter un lab de Red Team, c'est simple. Installe-toi Microsoft, fais-toi un DC. Commence à jouer avec toutes les features qu'il installe. Il y a eu quelques années la grosse saga aussi de tout ce qui est Active Directory Certificate Service, où tu peux utiliser des certificats pour t'authentifier. SpectreOps a publié un paper incroyable là-dessus avec plein de trucs. C'était super bien documenté, mais c'était juste des mauvaises configurations qu'ils ont mis à jour. Mais la réalité, c'est que ça, c'était là depuis day one. C'est juste que quelqu'un qui s'est mis à prendre le temps d'aller regarder là puis de se rendre compte qu'il y a des patterns qu'on trouve souvent, mais la plupart des Red Teamers n'exploitaient jamais ça avant que SpectreOps en parle. Puis c'est ça un peu, c'est qu'il y a plein de blind spots parce qu'on ne peut pas tout connaître. Puis ça serait se mentir de penser qu'en tant qu'humain, tu vas le savoir infus de tout ça. Donc, c'est important de comprendre tes limites aussi. Puis je pense que les clients doivent comprendre parce que des fois, tu vas entendre, on a fait faire un Red Team par XY compagnie, l'autre d'après, ils ont trouvé d'autres choses. Mais on est tous limités par notre propre connaissance. Puis je pense que c'est vrai que c'est important d'aller goûter un peu à tout puis de se rendre compte qu'il y a des skill sets un peu différents partout. Il n'y a pas de mauvais Red Teamer. Il y a juste des Red Teamers qui ont une expertise qui va répondre plus à tes besoins que d'autres. Puis je pense que le client aussi doit comprendre ça. Mais le problème, c'est que ça reste une business. Fait que souvent, tu vas avoir des business qui vont sur papier avoir des CV incroyables. Mais dans les faits, après ça, il y a plein de problèmes d'industrie.
Ouais,
là,
puis il y a des
problèmes
d'ego aussi certaines personnes qui prétendent plus que qu'est-ce qu'ils sont
exact,
vraiment aussi.
Ça,
puis ça, c'est la transparence, c'est très important. Puis ça, tu le mentionnes bien parce que chaque fournisseur de service, peu importe, va avoir des spectres dans lesquels ils sont excellents et dans lesquels ils sont moins spécialisés.
Exact,
c'est
normal, c'est ça. Puis ça revient à ce que tu dis, je pense que les gestes parlent d'eux-mêmes. Puis c'est un peu ça que je dis souvent, beaucoup pour les gens qui commencent en cyber, qui veulent se démarquer, des gens qui font des tests d'intrusion ou qui ont un intérêt pour le cyber, et c'est plein comparé à 10 ans, c'est beaucoup plus accessible. Tu as plein de formations en ligne, tu as plein de trucs comme ça. Donc quand ça arrive à l'embauche, si tu es junior et tu n'as aucune expérience sur le terrain, souvent, moi, ce que je recommande, c'est écrivez des blogs sur des trucs que vous avez fait. C'est pas grave si c'est quelque chose qu'on connaît déjà, mais de démontrer que vous avez cet intérêt-là, je trouve déjà que ça démontre une capacité d'écriture, ce qui est quand même important parce que ça aussi, c'est un truc, là, tu peux être le meilleur hacker au monde. Si ton rapport ne démontre pas ça, cette valeur-là ne brillera pas. Puis il y en a plein des gens comme ça qui sont super bons, mais que écrire ce qu'ils ont fait, c'est pas nécessairement leur force, puis j'en fais partie aussi. Là. Je suis dyslexique depuis que je suis né, les lettres, c'est pas ma force, mais j'essaie, je me suis outillé, puis faire un parallèle moderne un peu, je trouve que dans mon cas, l'AI est bon pour ça. Je suis pas du genre à demander à l'AI de me vomir un texte au complet, parce que ça, c'est la plague sur LinkedIn, là, des posts que tu, avec des opinions vides que ça paraît, qu'on te dit « écris-moi un article sur XYZ », moi je veux plutôt écrire mon article et demander à l'AI, puis là, je te vois plier en deux parce qu'on en voit trop souvent.
Ah, mais maintenant, c'est trop souvent, c'est une plaie. Ça l'a multiplié le volume de textes vides.
Exact.
Puis, c'est, puis là,
ça n'apporte rien dans le point de vue industrie.
Puis, incidemment, LinkedIn a perdu sa valeur au sens de diffusion de contenu où on pouvait, il y a quand même quelques années, trouver des choses intéressantes, suivre des choses. Là, il faut filtrer la quantité de choses.
Il y a à peu près juste ça. Puis c'est ça qui est plate, c'est que ça aide pas l'industrie, puis la valeur du contenu est diluée parce que là, c'est juste rendu un AI qui a remarché le même advice à ce qu'on disait tantôt, là, parler de politique de mots de passe en 2025, puis me faire un post AI, même si c'est avec du beau français, du bel anglais d'AI, le message reste le même. C'est pas là qu'on est dans l'industrie, on est plus loin que ça. On doit parler de d'autres choses réelles, mais les gens qui ont des opinions, je pense qu'ils peuvent faire bouger les choses, sont étouffés par les cyber-influencers.
Ouais,
un peu.
Ils veulent pas se mettre la façon
non, parce que
c'est un temps vide, puis t'as pas de retour qui est conséquent. Puis les mots de passe, puis celle-là, elle me fait rire parce que ça, c'est un vieux débat à laquelle j'avais eu à faire face à un moment donné, puis j'avais complètement déchiré un papier de quelqu'un là, dans un contexte professionnel. Puis il m'expliquait les affaires de mot de passe, ça, puis justement, il dit « Ouais, ça prend genre X secondes quand c'est un mot de passe de telle longueur. » Je dis « Ouais, mais t'as-tu monté ton scénario d'attaque pour que tu puisses savoir le hash? » Ouais. Parce que foutait le hash, là, il n'arrive pas de l'espace ton hash, là, faut que tu l'aies volé avant. Fait que si t'as aucun scénario plausible de voler le hash de mot de passe...
T'arrives avec quelque chose à travailler avec, là.
Exact. Pourquoi tu voudrais un mot de passe qui résiste un million d'années à se faire casser quand t'as aucune capacité d'avoir le hash parce qu'il est protégé adéquatement ou dans ton scénario d'attaque? Pour l'atteindre, il n'est pas là.
Exact.
Mais en même temps, quand tu vas avoir un scénario d'attaque avec un Mimikatz sur l'autre côté puis des choses, puis être capable d'infiltrer, ben là, oui, là, tu viens...
Le Mimikatz, c'est pas le mot de passe. C'est tout le chemin pour se rendre au mot de passe, en fait, qu'il faut que tu corriges.
Ben c'est ça. Fait que c'est comme ça. Si tu veux vraiment attaquer ton système, puis là, je vais leur montrer, bon, ton système qui est exposé, ben tu le fais juste ralentir sur les guessing. Puis là, c'est plus en question de secondes pour le casser le mot de passe, c'est en question d'heures, jours, même centaines d'années, s'il n'est pas détecté avant. Parce que,
ouais, puis il y a plein de standards, là, dont un que j'oublie, là, mais j'ai envie de te dire, genre RFC, genre 5980, quelque chose du genre, que c'est le concept de round, en fait, là. C'est de hacher le même mot de passe des milliers de fois, évidemment. Puis comme tu disais, la meilleure façon de ralentir ça, c'est que le temps de processing par essai est plus haut. Mais en même temps, tu ne veux pas non plus impacter l'utilisateur. Mais encore là, ce qui est drôle de ça, c'est qu'il y a aussi des downsides. Puis ça, c'est une vulnérabilité que je vois constamment, que j'adore, c'est les side channel attacks. Souvent, tu vas voir ça dans des logins, puis ça te permet d'énumérer des utilisateurs valides, même si tu as le message générique. Le problème qui arrive, c'est que quand tu rentres un utilisateur valide, le code, lui, va aller computer le hash après. Donc, d'un point de vue informatique, tu as un délai qui est assez gros pour que toi, tu es capable de détecter que le serveur est une demi-seconde plus lent que quand l'utilisateur n'existe pas parce que le hash n'est pas computé. Donc, il y a toujours du bien et du mal. C'est aussi de comprendre ça. Puis c'est aussi des fois la logique de code. Puis
ça aussi, c'est intéressant. Puis ça, là, on embarque dans des vraies discussions, notamment pour les mots de passe, pour l'énumération, au lieu de juste sortir ta charte que dire là, on est rendu, les GPU sont capables de casser ton mot de passe en 5 secondes. OK, fine. Mais que tu sois capable d'énumérer parce que puis même visuellement, des fois, c'est même visible quand tu sais que tu as un vrai user parce que c'est instantané.
Versus
quand
tu as
un user délai, valide, il y a comme un demi-seconde qui fait. Puis même humainement, c'est visible. Fait qu'imagine, quand on calcule de façon machine, mais là, c'est encore plus facile de
réussir. Exact. Puis ce qui devient intéressant après ça, c'est que là, la qualité du mot de passe est plus importante parce que c'est grave de te monter une liste d'utilisateurs. Tu peux y aller pour le volume en disant si tu essaies de trouver le mot de passe de 3 personnes versus 300 000, dans les 300 000, il y en a au moins un qui va avoir un mot de passe douteux. Puis d'un point de vue attaquant, tu en as besoin d'un pour rentrer. Donc d'après ça, c'est pas nécessairement de cibler. Puis c'est pour ça que je pense que ce discours-là devrait être intéressant. Puis c'est le genre de conversation qui devrait être plus discuté en ligne, mais malheureusement, les gens qui ont cette plateforme-là le font pas. Est-ce que c'est par un manque d'expertise peut-être, est-ce que c'est par un manque de conviction, je ne sais pas, mais je pense que ça serait important que ces conversations-là deviennent de plus en plus démocratisées et accessibles aussi pour les gens qui sont dans la cyber, qui sont pas nécessairement aussi techniques. Puis je parle des ciseaux, des trucs comme ça, parce qu'il y a des ciseaux qui viennent avec 300 000 backgrounds. C'est beaucoup de ce que j'ai vu par expérience, des gens qui viennent de la gestion, de la finance, des trucs comme ça. Mais l'intérêt pour le cyber n'est pas toujours là, mais je pense que c'est important parce que si tu comprends en tant que gestionnaire exécutif, la sécurité, ça va t'aider à prendre des décisions plus éclairées. Puis c'est pas nécessairement juste une question d'argent à la fin de la journée, c'est réellement protéger ton environnement versus on va mettre de l'argent, on va acheter ça, puis est-ce qu'on a une bonne politique de mot de passe? Parce que dans les faits, quand je fais mes ratings, la plupart du temps, j'ai aucune idée sur quoi les mots de passe des gens. Je vais aller voler des cookies sur des machines parce que je suis passé l'authentification. Tu peux avoir 50 facteurs si tu veux. J'ai un jeton unique associé à toi dans l'application. Je me log avec ça. Je vais aller prendre TH, je vais aller passe de hash parce que passe de hash, ça fait aussi longtemps que Windows que ça existe, que le concept est là. Donc, ton mot de passe, à rigueur, c'est plus, je pense, une genre de perversion un peu des Red Teamers de vouloir avoir le secret des gens. Mais personnellement, moi, ça ne m'intéresse pas de savoir que ton password, c'est j'aime les chats 42. C'est vraiment, j'ai besoin de cette valeur-là pour me connecter dans quelque chose pour arriver à mes fins. Donc, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas l'exercice à faire. Honnêtement, là, la dernière fois que j'ai craqué un password, ça doit faire 7-8 ans. Parce que j'ai pas ce besoin-là. J'ai le hash, puis c'est pas grave, là, la complexité du password.
Oui, puis on revient aussi sur toute la notion de kill chain, parce que c'est plus sur comme ça que tu vas driver ton initiative et ton scénario de red teaming. Justement, tu vas te monter un kill chain. Puis comme tu le dis, ben, les mots de passe sont comme pas vraiment dans la liste.
Non, c'est ça. C'est vraiment pas la priorité des attaquants. Encore là, quand tu as des breaches publics, c'est pas compliqué. Ils prennent le volume, ils prennent un domaine, ils essayent tout, puis ils regardent pas trop. Là. Puis la réalité, c'est que les gens sont paresseux aussi parce que il y a beaucoup le « il n'y aura pas d'impact ». Le commun des mortels, puis je pense que ça s'applique même dans l'industrie de la cyber, le concept de conséquence, je pense par exemple à « tu te fais compromettre ton compte de banque, tu as une transaction sur ta carte de crédit de 2 000 $, tu appelles ta banque, si c'était pas moi, ils te remboursent ça, il ne s'est rien passé, on vous envoie un numéro de carte de crédit ». Après ça, que mon mot de passe soit faible pour ma banque et quelqu'un accède à mon compte, c'est pas grave. Je vais appeler ma banque, ils vont s'occuper de ça pour moi. Fait qu'il n'y a pas de beaucoup de conséquences en fait pour les gens. Puis je pense que ça ne donne pas envie aux gens de comprendre la cyber. Puis un peu comme on dit avec les exécutifs, le commun des mortels comprend encore moins la cyber. C'est tout le temps présenté comme il y a le feu partout, tout va être brisé. C'est vrai, puis c'est pas vrai, dans les faits que tout est connecté maintenant, puis il y a des vulnérabilités, mais c'est pas tous les jours que les avions tombent pas du ciel encore parce qu'il y a des attaques.
Bien heureusement.
Ben, c'est ça, mais concrètement, est-ce que ça va arriver un jour? Peut-être pas, mais je pense que les attaquants modernes, ce qui sont motivés, c'est par le gain. Tuer des gens dans un avion, par exemple, ça va juste probablement faire que les autorités vont commencer à courir après, parce que là, il y a de la mortalité. Mais si tu regardes les ransomware, c'est un écosystème qui est complexe. Tu as des solutions de sécurité qui sont là pour te dire qu'ils vont t'aider. Tu as les assureurs. Fait qu'il y a des gens qui paient, c'est l'argent bouge. Puis c'est ça, en fait. Fait que dans les faits, c'est une industrie qui bénéficie autant les biens que les mauvais, parce que tu peux offrir des services contre ça, tout ça. Donc, c'est là, puis ça existe parce que ça fait rouler une industrie, en fait. Mais il n'y a pas d'impact sur les vies. Une rançon pour une compagnie, ben, peut-être qu'elle fait faillite. Puis de leur point de vue, ben, les gens se retrouvent un travail. Puis oui, il y a des gens pendant que ça a changé leur vie, ça a tué des compagnies, ça a mis des gens qui ont travaillé tout fort leur vie là, mais d'un point de vue des autorités, il n'y a rien qui est fait.
Ouais, ben, de toute façon, le meilleur exemple qui vient à pied, ce que tu dis, c'est Colonial Pipeline, quand ça a touché quelque chose de grave, et là, le gouvernement a pris, puis là, ils ont dit, hey, faites plus ça, puis là, ben, là les attaquants ont dû scale down parce que là, il y avait une conséquence réelle pour les attaquants dans ce cas-ci, puisqu'il y avait une conséquence réelle pour les citoyens américains en l'occurrence.
C'est un cas
comme ça, là, qui arrive, qui nous amène comme ça. Fait que c'est, mais on revient toujours à la notion de kill chain, on maîtrise pas ça, puis tu parles des exécutifs aussi. Mon cœur de métier, c'est essentiellement ça, c'est de combien des exécutifs. Puis je parle souvent dans un contexte où généralement j'arrive quand que, genre, le feu est pris dans la maison.
Exact, c'est ça.
Puis là, ils sont en panique. Puis là, puis ils se font en plus amplifier un message négatif par du monde en cyber parce que là, c'est la fin du monde. Et là, j'arrive là, je mets le couvercle à ma marmite, je parle à l'exécutif. Puis là, j'amène l'exécutif à comprendre son risque, à comprendre sa posture. Puis ça, il faut que je le fasse ça généralement en 24-48 heures parce que le feu est pris dans la maison. Fait que là, tu arrives, tu dis, OK, voici, on va éteindre, on va construire, puis, on va, puis ensuite, on va avoir un espace pour retourner de l'autre côté et retourner.
Ouais, puis c'est un bon contexte aussi pour faire de l'apprentissage, je pense, pour ces gens-là. Puis ça revient à ce que je te disais, c'est que tu as la chance, malheureusement, parce qu'il y a un feu, de pouvoir t'asseoir avec eux. Puis de dire, regarde, on va essayer d'éduquer un peu. Puis souvent, je pense que ces exécutifs-là ressortent grandis de tout ça parce qu'ils ont eu la chance de s'asseoir avec quelqu'un comme toi qui est capable d'amener une vision technique. Parce que la cyber, c'est rendu un parapluie très large. Il y a des gens très techniques, des gens très, très, très loin d'être techniques. Puis on a besoin de tous ces gens-là, mais il faut qu'ils se parlent. Puis je pense que c'est ça, ça revient à ce que je te disais. Il faut qu'on trouve une façon en tant qu'industrie de mélanger tous ces gens-là pour que chacun apprenne des autres. Puis je pense qu'on va être plus fort parce que si on regarde là, justement les ransomware, il y en a des centaines par mois de nouvelles compagnies qui se font comprendre. Fait clairement, les processus, les frameworks, les outils qu'on a, ça ne fonctionne pas d'un point de vue prévention. Mais étrangement, il y a des gens qui crient fort dans les gens plus techniques, il y a des solutions air quote plus simple, mais ça se rend pas de l'autre côté parce que c'est un echo chamber avec les gens techniques, les exécutifs sont dans leur propre echo chamber de tout va bien, c'est pas grave, on a des assureurs, puis ils ont plus l'aspect corpo. Fait que tout le monde c'est echo chamber, mais personne se parle, puis je pense que ça serait vraiment important que ça arrive plus.
Oui, tout à fait. Puis là, je bascule un peu sur ton rôle de Red Team, puis de parler, parce que dans ton travail, comme tu as des clients qui sont un peu plus matures, tu vas nécessairement trouver des éléments nouveaux, des nouvelles façons. Est-ce que tu communiques ça avec les compagnies défensives, disons des EDR ou des choses comme ça? C'était des choses où les fabricants des logiciels dans lesquels tu réussis à casser un peu une fois la mission complétée? Là.
Exact. Bien, à la fin de la journée, on est là pour aider, donc garder ça secret pour nous, pour juste exploiter des trucs. Ça n'a pas vraiment de valeur de mon point de vue. C'est sûr, si j'étais un attaquant criminel, l'histoire serait différente, parce qu'évidemment, ça devient un secret d'entreprise que tu peux utiliser à bon escient. Mais la réalité, c'est que c'est pas toujours simple. Il y a des endroits où ils vont être super réceptifs. Il y a des endroits qui vont essayer de dire que tu as brisé leur truc. Surtout tout ce qui est EDR. Peu importe ce qu'ils véhiculent en ligne par expérience, quand tu leur amènes des mauvaises nouvelles, si je peux dire ça comme ça, vont souvent répondre par de la légalité, des trucs comme ça. Puis je trouve pas que c'est pertinent. Parce que ça aide pas, puis encore là, c'est une opinion personnelle ici, là, mais j'ai un peu de misère à comprendre qu'il y a certains EDR, en fait, qui glorifient puis valorisent les groupes d'acteurs, sans nommer de nom, dans certaines conférences où j'ai déjà été, t'as des statuts, ils donnent des noms aux attaquants, ils leur donnent un look, puis c'est tout un look un peu très... très cool, là, des affaires avec des guns, des gros muscles. Ils leur donnent des noms catchy, mais je pense vraiment que plus que tu les glorifies, plus que tu leur donnes la visite puis du mérite. Puis en fait, on devrait leur donner un numéro. Toi, t'es un, toi, t'es deux. Puis c'est un peu comme ça. Le moins je te donne d'exposure, moins t'es populaire. Mais on a tendance à utiliser ça comme un outil de marketing. Maintenant, on a ce nouveau groupe-là, le Thunder Pants. Puis là, ils te font un logo avec... Puis même dans les vulnérabilités aussi, là, c'est un truc moderne là, de nommer les vulnérabilités. Ben, dans les faits, le CVE, ça le fait. C'était ça le but, le CVE. Pas besoin de rajouter un nom par-dessus. Mais encore là, c'est une industrie, c'est marketing. Autant de la défense que de l'attaque. Tout le monde essaie de tirer son épingle du jeu. Mais encore là, ça dilue le vrai message de... C'est la vulnérabilité, est-ce qu'elle est critique ou non? Est-ce que moi, en tant qu'entreprise, je devrais prendre action? C'est pas un logo ou un nom qui va t'aider à répondre à cette question-là. C'est d'avoir des experts à l'interne qui sont capables de réviser ça, d'évaluer la patch. Puis des fois, tu as aussi comment les bulletins de sécurité sont faits. Ils sont très nébuleux, des fois, pour mille raisons. Des fois, c'est juste parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. Généralement, quand tu n'as pas beaucoup d'informations, bonne chance qu'il n'y ait pas d'exploit pour ça encore, mais quand c'est très verbeux, au moins tu es capable de demander à tes équipes techniques, es-tu capable de regarder ça, puis d'arriver avec une évaluation de c'est quoi notre risque réel, mais encore là, ça prend des ressources, du temps, de l'argent d'un point de vue entreprise, puis des fois, ben, les gens ne sont pas intéressés à faire ça.
Ouais, ils veulent pas. C'est un peu ma grande tristesse. Les gens ne sont plus intéressés à comprendre comment les choses fonctionnent. Puis, il me semble qu'on est dans un domaine où c'est encore d'autant plus important d'avoir cette connaissance-là. Parce que si on ne l'a pas, on est aveugle. Exact. Puis finalement, on est un peu dans le vide. On a fait un grand tour.
Ouais.
Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais qu'on aborde, qu'on n'a pas abordé?
Écoute, on pourrait être ici pendant 10 ans probablement, mais je pense que un peu comme j'ai dit, je trouve que l'état de la cyber est étrange. Il y a beaucoup de haine. Je pense qu'on est dans une ère où les gens sont beaucoup dans la haine. On devrait s'unir au lieu, si quelqu'un a publié quelque chose, au lieu de systématiquement les démolir, justement, c'est drôle parce que avant le NordSec, j'ai fait un tweet par rapport à mon talk, puis je disais, j'ai fait exprès de volontairement dire que c'est une novel technique, là, puis c'est un keyword qui attaque beaucoup de gens, de dire que c'est nouveau. Je crois sincèrement que ce que j'ai présenté, une technique qui n'avait jamais été utilisée, du moins dans ce contexte-là. Puis tout de suite, un compte un peu clairement géré par quelqu'un qui fait ça, il disait que c'était de la merde, mon affaire, que c'était du copy-paste d'un autre tool qui existait. La technique n'est même pas publique encore, fait que j'ai rien fait encore, puis on m'accuse déjà. Tu sais, c'est ça la cyber maintenant, c'est les gens sont au mérite. Puis la réalité, c'est que je fais des présentations, des trainings pour essayer d'éduquer puis donner à la relève. Moi, quand j'ai commencé en cyber il y a 15 ans, on n'avait pas cette accessibilité-là. J'aurais aimé ça pouvoir aller m'asseoir dans ces trainings-là, avoir accès à ce genre d'informations-là, parce que ma courbe d'apprentissage aurait été encore plus rapide. Fait que j'essaie de redonner un peu, puis je pense que le monde est juste fâché après tout, puis on prend un peu trop tout ça à cœur pour une raison que j'ai beaucoup de misère à comprendre, dans le sens que la cyber, c'est un travail. Il y en a beaucoup qui vont référer ça à une passion, mais je pense pas que tu peux être passionné de cyber. Tu peux avoir un intérêt très grand, comme si on fait le parallèle avec moi, je suis pas très bon à l'école, j'ai eu de la misère quand j'étais jeune à cause de la dyslexie et tout ça. Moi, mon rêve dans la vie, c'est de faire de la recherche en chimie organique, des trucs comme ça. Le problème, c'est que tu as besoin d'un doctorat, mais avec mon bagage de langue et d'écriture qui était problématique dans ces années-là, c'était inatteignable pour moi de faire un doctorat. Mais ce que j'aimais de la chimie organique, c'est l'aspect puzzle, c'est ça. Puis si je regarde la cyber, moi j'ai commencé avec plus en programmation, l'aspect encore puzzle, puis je voulais comprendre comment ça marchait. Puis à chaque fois, ça ramenait au hacking tout le temps, parce qu'on dirait comprendre hacking. Puis c'est naturellement arrivé. C'est pas l'aspect criminel out là du hacking qui m'intéresse. Moi, c'est l'aspect puzzle. J'ai une mission, j'ai un puzzle à solver, puis c'est ça que j'aime. Fait que naturellement, j'ai été là. Puis c'est ça aussi, là, c'est les gens, c'est de trouver leur voie puis de s'aider. Puis à la fin de la journée, si tu as publié quelque chose qui a été publié il y a 10 ans puis que tu ne savais pas, c'est pas grave en fait. Que quelqu'un te corrige, c'est correct, mais il y a encore tout le temps l'aspect de faut créditer tout le monde pour tout et rien, mais en même temps, je trouve que c'est compliqué. Puis encore là, on dilue le message. On essaie de rendre ça plus sécure. On essaie de publier des techniques qui vont aider les autres. Puis j'ai formé plein de gens à travers les années qui travaillent pour des compagnies qu'on considère comme étant des compétiteurs. Puis tant mieux s'ils sont meilleurs que nous grâce à ça. À la fin de la journée, je me dis si j'ai aidé quelqu'un. Puis j'ai rencontré plein de monde dans ma carrière à travers des initiatives comme par exemple le Ring Zero, qui est un CTF en ligne qui est d'ailleurs né du Hackfest dans le temps. Combien de fois on se faisait est-ce que les challenges vont être en ligne après l'événement? Puis j'ai dit, tu sais quoi, je vais prendre le temps, puis je vais le faire une fin de semaine. J'ai monté cette plateforme-là avec des vieux serveurs qui m'ont été donnés. J'ai mis ça chez moi. Je payais l'électricité à tous les mois, les noms de domaine. Je me disais, on va être 5-6 amis. Puis là, tu vois, aujourd'hui, il y a presque 50 ou 60 000 membres là-dessus. Il y a plein de gens qui ont commencé là. J'ai rencontré plein de gens. Je me disais, ah, grâce à ce site web-là, c'est comme ça, je suis en cyber au Québec. Ils ont rencontré des gens. Il y a la communauté qui vient avec. Il y a plein d'événements qui amènent des communautés. Mais on dirait que tout le monde est tout le temps en train de détester tout le monde. Fait comme, on a tous un intérêt commun, c'est la cyber. Pourquoi on ne fait pas juste aller dans cette voie-là? Je pense que ça serait beaucoup plus constructif au lieu de dire un tel, il y a de la jalousie, il y a un paquet de trucs là-dedans, mais ça devient lourd, puis ça devient décourageant. Tu sais, j'ai eu mon lot d'expériences de gens qui avaient plein de choses à dire sur moi. Puis en vrai, des fois, j'ai fait de la réflexion, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait de si mal que ça, à part j'ai donné 6 ans de ma vie au Hackfest, j'ai fait des challenges pendant 6 ans au Hackfest, j'ai donné des centaines d'heures, j'ai donné 6 ans au NordSec de mon temps, j'ai monté le Ring Zero qui est une plateforme en ligne dans mon propre serveur chez moi, j'avais ça chez moi, je payais pour hoster ça, je mettais des challenges là, on est rendu à presque 400 challenges. Je pense qu'il y en a à peu près 300 que j'ai fait à travers les années. Je donne des formations, j'ai donné des workshops payants, gratuits. Je donne des talks à chaque année dans les événements qui sont intéressants à m'avoir. J'ai toujours essayé de partager ce que j'avais. Puis je me dis, ben, je pense pas être quelqu'un qui a gardé ça pour moi ou qui a fait quoi que ce soit. Après ça, si les gens aiment pas mon look ou ce que je dégage, c'est une chose, mais en même temps.
T'as des tatous, c'est
ouais,
menaçant.
Ben ça. Puis j'aime le vêtement, mais à rigueur, t'as le droit de détester ce que j'ai fait techniquement, mais pas la personne que je suis. On se connaît pas. Puis je trouve que ça, il y en a beaucoup. Tout le monde a tout le temps des opinions sur tout le monde, mais à la fin de la journée, tu fais un podcast, tu donnes de la visibilité. Je t'avouerais que je sais pas le reach que t'as avec ce podcast-là, mais peut-être que cette conversation-là va donner le goût à une personne de se lancer en sport.
J'espère que ça va être inspirant et ça va amener cette lumière-là ou cette certitude-là qu'on peut contribuer. Ça, puis le podcast est dans le même esprit que toi, c'est de donner à la communauté, c'est aussi dans le partage, parce que c'est dans le partage qu'on grandit. Puis moi, quand je partage, ça m'enlève rien.
Mais non, exact.
Puis ça fait juste donner des choses aux autres, puis les autres m'en donnent, puis tout le monde est gagnant dans un contexte.
Mais il y en a qui vont être un peu jaloux, puis pas aimer la visibilité que tu as, parce que j'imagine que ce podcast-là a une certaine visibilité. Ça fait quand même des années, il y a des gens qui l'écoutent, puis après ça, ils disent, ben Nicolas, lui avec son podcast, il est connu, puis c'est un ci, c'est un ça, parce que. Mais en même temps, les gens connaissent pas ton histoire, puis on en parlait justement hors micro. Quand on était dans le Hackfest, il y a 15 ans, tu sais, presque 20 ans dans ton cas, ça nous rajoute. Ni pas, puis il oublie tout le chemin que tu as fait, les heures qu'on a mis, puis le temps qu'on est arrivé là. Je me suis pas levé hier en faisant, moi je suis rendu un expert en cyber, là. J'ai dédié ma vie à ça depuis que j'ai 15 ans. Je dis toujours que le piratage, c'est un lifestyle dans le sens où tu es constamment en apprentissage. C'est un mindset de toujours être. Vouloir boire, absorber de la nouvelle information parce que c'est comme ça que tu évolues, sinon tu vas stagner puis tu ne seras pas nécessairement un professionnel à jour dans ça. Mais tout ça, je pense que c'est vraiment important. Puis je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de haine puis de façon mondiale. Là, puis j'aimerais ça que les gens soient plus en paix. Tu sais, encore là, comme je dis souvent, les gens ne me connaissent pas, mais à la fin de la journée, j'ai grandi à Montréal-Est dans un milieu pas nécessairement. C'est très, très, très fortuné. J'ai grandi avec les gens dans la rue. J'ai découvert le gangster rap comme ça. C'est ma musique, c'est ma culture, c'est ça. Mais autant que je suis un gars qui écoute du gangster rap, mais qui fait des fins de semaine de jeux de société. Moi, je suis un grand joueur de société. Fait que on a des groupes de jeux, on fait des soupers, on a notre petit monde, mais je suis quelqu'un, en fait, qui aime les humains, mais des fois, les gens me dépeignent comme étant le plus grand monstre au monde. Puis honnêtement, ça me fait mal parce que c'est souvent des gens que je connais pas en plus. Puis je me dis tout le temps, ah, ben, ils aiment pas le look parce que j'ai des souliers bleus aussi ou ça. Mais les gens aiment se comparer puis juger ça. Mais pour vrai, je trouve que c'est blessant. Puis je prends pas la seule personne qui vit ça. Là, puis je pense que des fois, ça prend à décourager bien des gens. Je sais pas combien de fois j'ai voulu lâcher la cyber à cause de ça. Puis il y a des gens qui m'ont dit non, mais ce que t'apportes, c'est cool. T'es tout le temps en train de donner ton 120%. Puis je m'accroche à ça, mais tu vas peut-être avoir la foi de trop. Puis.
Oui, puis je suis d'accord avec ça. Puis c'est à décourage parce que d'un côté, on charge sur le fait qu'il n'y a pas de relève.
Mm-hmm.
Mais de l'autre côté, justement, des comportements, comme tu mentionnes, ne favorisent pas l'intérêt à ce que les gens viennent. Puis j'espère que ce que tu as mentionné va justement remettre en perspective et justement réduire cette inquiétude-là que les gens peuvent avoir à ça. Parce que dès du moins qu'on contribue, il y a toujours des risques à ça. Mais dans l'absolu,
exact. Ça
l'amène toujours quelque chose de mieux. Sur ça, on va clore là. C'est une énorme conversation. J'ai beaucoup ri parce que tu as fait beaucoup, ouais. Beaucoup d'allusions à des choses qui me touchent puis que j'ai des opinions que je ne verbalise pas nécessairement, mais en tout cas, bref, que tu auras compris.
Ben, des fois, d'être transparent sur nos valeurs, je pense que ça peut payer puis de rester authentique. Puis pour faire le parallèle, je pense qu'une chose, la personne que je suis, ce que je dégage, c'est moi, dans le sens que c'est ma culture, c'est où j'ai grandi. Ce que je présente, j'ai pris le temps de l'apprendre. Puis c'est pour ça que souvent j'essaie d'aller là, puis on pourra jamais m'enlever ça, que je reste la personne que je suis, que t'aimes ou que t'aimes pas. Je prétends pas être quelqu'un d'autre. Le Charles avec qui tu parles en ce moment, c'est le Charles que je suis autant chez moi, dans l'intimité, avec ma copine ou peu importe. Puis je pense que c'est important que les gens restent authentiques. Puis ça, le monde moderne avec les réseaux sociaux, les gens sont de moins en moins authentiques. Mais La réalité, c'est qu'on a tous des vies misérables. Il y a des moments dans ta vie où c'est pas glorieux, mais les réseaux sociaux nous font croire que tout le monde est toujours en train de voyager, que tout est vert, que tout est beau. Mais la réalité, c'est qu'il y a des journées où ça va pas. Toi aussi, il y a des journées où ça va pas. Tout le monde, il y a des journées où tu te dis ça va pas bien aujourd'hui, puis c'est correct, puis t'as le droit, tu sais, ou qu'il y a des passes où c'est plus difficile, ou il y a quelque chose que t'essayes de faire que ça marche pas. Combien de fois j'ai passé du temps à déboguer mon propre code, puis finalement, ben, c'était juste parce que j'ai fait une connerie, parce que t'es rendu tunnel vision, ça fait 20 heures que tu es sur le même problème, puis c'est correct de demander de l'aide aussi, autant sur la santé mentale que dans le code. Là, c'est pas un trophée, c'est pas une compétition. En fin de la journée, tu fais partie d'une industrie plus large. On est là pour s'entraider, on est là pour qu'on grandisse tous. Puis je pense que de partager, c'est important aussi, mais comme tu dis un peu, il faut que les gens aussi soient capables de respecter l'expérience que tu as, puis de comprendre que peut-être cette personne-là en a vu plus que toi, puis son opinion a peut-être quelque chose qui peut t'amener à l'ailleurs. Souvent, puis tu sais, je fais un dernier parallèle, il y a beaucoup de techniques qui sont publiées, qui sont super avancées. D'un point de vue technique, c'est super intéressant, mais d'un point de vue pratique, c'est pas toujours utile parce que la technique amène une signature par elle-même due à la complexité du code. Puis je suis quelqu'un qui prône énormément la simplicité dans tout ce qui est malware development. Keep it simple. Plus c'est simple, moins tu as de chances de détection parce que tu as moins de patterns qui vont être utilisés. Donc encore là, l'aspect recherche un peu académique avec des techniques incroyables, c'est cool, mais après ça, est-ce que c'est utile? Puis ce que je présente dans mes talks, dans mes trainings, c'est des choses que j'ai développées parce que j'avais un besoin. Puis souvent, les gens me disent « Ah, c'est cool, j'ai utilisé, ça marchait vraiment bien. » Je dis « Ben, je sais, moi aussi, je l'utilise, puis ça marche vraiment bien. » Puis je pense aussi qu'il y a cette distinction-là à faire qui est bien importante, là.
Excellent. Je te remercie énormément. C'est une énorme conversation. Je pense qu'on devra la reprendre parce qu'on a juste effleuré la sortie.
On s'appelle et on déjeune.
On déjeune, mais on prend une bière. Excellent. Mais merci énormément. Mais merci. Puis de toute façon, tu as une formation, un workshop, je pense, dans pas très long. Puis je pense que les gens vont encore bénéficier. Puis dernier clin d'œil, j'ai des collègues d'une firme française qui ont suivi ta formation.
Ah, ben oui, ils étaient super charmants. Ils venaient de Toulouse. Là. Ils sont venus fly in and out. Encore là, j'espère que ils ont apprécié leur première expérience au Québec. C'est tout le temps fascinant de voir à quel point justement tu finis par avoir de l'impact sur des gens que tu ne sais pas qu'ils existent en espérant qu'ils ont apprécié.
Je pense que oui. En tout cas, bref, c'est ça. C'est intéressant de voir justement quand pour reboucler sur ton partage, c'est un bel exemple de cet élément-là. On est ouvert vers le monde. Je pense que tout le monde en sort un nom en gagnant.
En groupe, on est plus fort, clairement.
Oui. Merci.
Merci à toi.